Oui, des relations. Aujourd'hui, on va parler dans la première moitié de l'après-midi des relations un peu plus larges. Et j'aime dire que ce qu'il y a une des plus belles choses sur Terre, c'est des relations. Et la chose qui peut être la plus douloureuse sur cette Terre, c'est des relations qui vont mal, hein. Ça vient nous chercher. Et voilà, on va continuer aujourd'hui à trouver, comme on s'est dit ce matin, à la fois la reconnaissance pour des belles choses, mais on veut aussi vraiment trouver de l'espoir pour des choses complexes que nous vivons. Hein, et on espère vraiment qu'aucune de nous reparte ici aujourd'hui sans avoir vraiment trouvé de l'espoir pour des choses complexes qu'elle vit. Cet après-midi, nous allons parler de deux belles histoires de la Bible. Et alors, mamie, toi, tu vas commencer avec des relations pleines d'espérance avec Ruth et Noémie.
Ouais.
Oui.
J'aime beaucoup cette histoire et je pense vous aussi. C'est un peu conte fait, n'est-ce pas? Ça finit avec une très grande situation, super beau. C'est Ruth. Ruth qui est devenue l'arrière-grand-mère du roi David. Quelle femme! Extraordinaire, absolument extraordinaire. Mais comment s'est passée son histoire? Alors, je vous montre une peinture. Je pense que c'est une peinture, à mon avis, très beau. Ça montre deux femmes. Deux femmes avec une vision, l'une surtout. Voilà, vous connaissez bien, c'est Noémie et Ruth qui sont en chemin à la terre promise, Israël. Noémie avec son mari, ils ont quitté Israël. C'était un pays pourtant promis, pourtant le pays de Dieu. Mais il était en catastrophe. Tout le monde faisait ce qui était bon à ses propres yeux. Vous connaissez les livres de Juges, n'est-ce pas? Et puis c'est là, cette situation. Catastrophe sur catastrophe. C'était vraiment affreux de vivre en Israël. Chacun faisait ce qui était bon à ses propres yeux. Vous vous rendez compte si ça a été en Suisse comme ça? Oh là là, pas de police ou bien, je ne sais pas. Confusion totale. Alors, c'est là où Noémie, avec son mari, Elimélec, ses deux fils, Élon, ils s'appellent et Mahlon, voilà, ont vécu. Il y avait la famine. Il y avait des situations catastrophiques, tristes. Il y avait des situations méchantes, mal. Alors, Noémie et son mari se sont dit, on va quitter. Mais où aller? Ils vont à Moab. Et vous connaissez vos Bibles, Moab n'était pas un pays qui faisait plaisir à Dieu. C'était un pays maudit. Comment cette famille a pu aller à Moab? On dit, quand on lit cette histoire, oh, ils ont fait une grande faute. Ah, oh, ils n'avaient pas assez de foi. Ah, oh, ils n'ont pas assez prié Dieu pour les montrer comment faire. Il ne faut pas juger, mes chers. Pas juger les uns les autres. Quand on voit que cette famille ou cette famille font des fautes, essayons de ne pas juger. C'est bien nous. C'est notre Dieu qui juge les situations. Et voilà, cette famille est partie, arrivée à Moab, où ils ont vécu certainement une meilleure vie qu'en Israël. La famille n'était pas là-bas à Moab, ils avaient assez à manger. Et je pense qu'Elimelech a trouvé un travail. Et ses deux fils, intéressant. Les noms de ces deux fils, c'était plutôt des fils faibles, pas très bons en santé. Ils ont reçu des noms qui parlaient plutôt de la faiblesse. Comment Noémie a pu donner ses noms à ses fils? C'était peut-être comme ça. Et c'est peut-être aussi une raison de plus pour partir. Qu'est-ce que je fais avec deux garçons qui sont malades dans ce pays où il y a la famine, n'est-ce pas? Alors ils sont partis les quatre. Ils ont recommencé là-bas. Mais nous lisons qu'après peu de temps, Élimélec est mort. Le mari est mort. Oh Noémie, quelle catastrophe de nouveau. Qu'est-ce que tu dois subir? Le mari est mort, le soutien de ta famille. Et je pense, plus après, les fils se sont mariés. Je pense que Kilion et Malon, ils ont cherché, ils se sont demandé où est-ce qu'on va trouver des femmes, des Moabites. Quoi? Est-ce qu'on peut se marier avec des Moabites? C'était défendu dans notre pays. Mais non, ne prenez jamais des femmes Moabites. Mais ces deux garçons, ces deux jeunes hommes, se sont épousés avec des Moabites. Pour Noémie, encore un grand chagrin. Je suis sûre qu'elle était là, elle ne savait pas que faire. Ses fils, ils devaient se marier pour continuer leur avenir, n'est-ce pas? Mais Noémie, qui aimait Dieu, qui était en relation avec son Dieu, je suis sûre qu'elle a prié, elle a dit, « Seigneur, encore ça, non, 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 mais je veux les accepter, je veux les accueillir, ces deux belles filles. » Qu'est-ce qui se passe encore? C'est pas fini les catastrophes. Voilà, un fils meurt et l'autre meurt. Et Naomi reste là avec ses deux belles filles. Quelle situation! Il y a eu ces situations dans la guerre mondiale, n'est-ce pas? Vous avez entendu ces histoires? Il y avait eu ces histoires dans des familles où les fils sont morts, ils ont faillite, il y a eu des divorces. C'est malheur dans des familles, ça existe, c'est réel. Mais comment agir? Comment faire? Noémie, qu'est-ce que tu as fait dans cette situation? Qu'est-ce que j'aurais fait moi? Elle tenait ferme à son Dieu. Mon Dieu, il sera avec nous. Voilà l'arc-en-ciel. Mon Dieu sera avec nous, l'alpha et oméga. Elle avait cette foi ferme, assurée. On va rentrer. J'ai entendu qu'en Israël, il y a de nouveau eu une récolte. Alors, la chance, je vais rentrer. Et vous les filles, mes belles filles, qu'est-ce que vous allez faire? On va bien, on va avec toi, ma belle-mère, on va avec toi, Noémie, on t'aime tellement, on vient avec toi. Alors, ils ont fait un bout de chemin. Et finalement, Noémie, la sage, elle a dû dire à ses belles-filles, quand même, il n'y a pas d'avenir pour moi, il n'y a pas de futur pour moi, j'ai rien, j'ai tout perdu. Rentrez chez vous. Chez vos familles et chez vos dieux. Intéressant. Mais une des deux, c'était Orpa. Elle a réfléchi. Elle a fait la balance et puis elle s'est demandé, est-ce que je vais avec Noémie? Elle n'a rien, pas de futur. Où est-ce que je vais rentrer dans ma famille? Elle a choisi. Je vais rentrer. Voilà. Il y a des relations. Et j'aimerais vous montrer ça avec cette bande élastique. Il y a des relations qui tiennent ferme, même dans les épreuves. Il y a des relations qui sont en train de se casser, de se défaire. Pour Noémie, c'était une telle relation avec Orpa. Pourtant, elle a aimé sa belle-fille. Mais Orpa s'est décidé différemment. Vous avez vécu ça? Vous avez vu la déception? Peut-être un de vos enfants vous a dit au revoir. C'était. Ou votre belle-fille vous a dit, maman, tu n'étais pas la mère. Ou bien, tu vois, ces situations. Qu'est-ce qu'on fait avec ces situations qui se cassent, qui sont plus intactes? Vous les jetez? Ok, bye bye. C'est fait. Non. Je vous conseille de mettre ces relations cassées, malades, difficiles, de les mettre dans les mains du Seigneur. Pas cassées, pas les écarter, mais les mettre dans les mains du Seigneur. C'est là où ils vont bien. C'est là où il y a la chance. Mais pour eux, important. Voilà ce que Noémie a fait. Elle a laissé aller Orpa. Vraiment, j'admire cette femme. Mais les deux maintenant, et c'est bien notre image, Ruth a dit, ma mère, ma belle-mère, laisse-moi, je ne vais pas te quitter, je ne vais jamais te quitter. Je vais aller avec toi. Elle a dit, n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu irais, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. Là où tu es, tu seras. Alors, quelle conviction de cette Ruth. Et je pense que c'est justement ça qui l'a rendue capable, qui l'a rendue vraiment... Oui, je dirais tellement wertvoll.
Valable.
Valable.
Pleine de valeur. Pleine de valeur.
Pleine de valeur pour devenir l'arrière-grand-mère du roi David. Une telle disposition de cœur, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Que chacune de nous ait une telle disposition. Ton Dieu sera mon Dieu. N'est-ce pas? Ton peuple, qui n'est pourtant pas toujours facile, hein? La famille chrétienne, hein? Mais sera ma famille, mon peuple. Et voilà, avec cette attitude, les deux femmes sont mises en chemin. Une vision. On va rentrer dans ce pays. Ça sera très difficile. Je suis sûre que Noémie s'est dit... Aïe, 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 aïe. Quand je rentre, qu'est-ce que je vais raconter à ces gens que j'avais laissés il y a des années? Je les avais laissés en dire, ah, on va dans un pays, il y aura de la nourriture, il y aura ci et ça, on sera très bien. Et maintenant, en chemin de retour, nous devons dire, on a tout perdu. Mon mari et mes deux fils. J'ai rien, mais vraiment rien. M'appelle-moi Mara, je suis amère, aigrie, triste, désespérée. Ces moments de vérité, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais elle s'est confiée en son Dieu. Seigneur, ma situation est catastrophique, ma situation est nulle. Je ne peux rien, j'ai rien. Ma seule espérance, c'est toi. Et voilà les deux femmes, on les voit, allant dans cette terre promise, où il y a un Dieu qui a dit, je suis Oméga, je suis Alpha, n'est-ce pas? Avec une espérance, et justement, comme on a dit, qu'on te fait. ça va se bien terminer. Allez la lire dans votre Bible, Ruth, tout petit livre, mais plein d'espérance, plein de joie, plein de rire aussi, et plein de bonté.
Nous allons vous laisser un petit moment, seul ou avec l'une ou l'autre. Avec laquelle des deux femmes est-ce que tu t'identifies le plus? Ou même la troisième, hein, Orpa aussi. Peut-être il y a certaines situations où tu dis, là, je dois quitter le bateau. Voilà, des trois femmes peut-être. Tu t'identifies et pourquoi? Voilà. On a des riches histoires dans la Bible. Hein. Tellement, il y a tellement de couches, c'est tellement épais, c'est dense. Pas beaucoup, beaucoup d'histoires avec que des femmes comme ça. Donc, on est toutes heureuses d'encore pouvoir vous parler de Marie et Élisabeth. Et ce texte est tellement incroyable, je vais la lire. Hein, c'est l'annonce de la naissance de notre Seigneur Jésus. Ouais. Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles. Attendez, je vais mettre juste la photo comme ça, on s'imagine. Chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. » Et elle est à son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Avant de continuer ma lecture, j'aimerais juste qu'on s'arrête un petit moment sur cette Marie. On n'en parle pas beaucoup chez nous, hein, dans les assemblées ou dans nos églises. Et c'est dommage, parce que c'est une femme, mais exceptionnelle, exceptionnelle. Vous imaginez, chaque femme en Israël rêvait de ce qu'elle allait devenir. Chaque femme, je suis sûre de ça, d'être la mère du Messie. Et c'est elle qui est choisie. Il se peut, comme la peinture le montre, qu'elle était très très jeune. À l'époque, on se fiançait, on se mariait très jeune. Il se peut qu'elle ait 14 ans, 15 ans. Vous imaginez, une si jeune femme, avec autant de confiance, qui accepte comme ça un message qui va bouleverser sa vie, hein. Alors, bien sûr, elle sera mère du Messie, mais waouh, j'imagine son cerveau allait très très vite. Elle réalisait bien que ça allait, qu'il allait se passer, n'est-ce pas? Il se peut que dorénavant, elle était connue comme la du village. Hein? Je n'ai même pas envie de dire ce mot, parce qu'il a été utilisé bien trop souvent et a blessé tellement de femmes. Il se peut que notre Seigneur Jésus parmi des petits copains avec qui il jouait, était appelé le bâtard du village. Va savoir. Parce que les nouvelles vont vite, hein. On peut imaginer, c'est peut-être pas le cas, mais c'est peut-être pas non plus exclu, cette option-là. Donc cette jeune Marie, qui reçoit alors bien l'archange, hein, c'est impressionnant, mais elle garde la tête froide, hein. Comment cela se ferait-il, puisque je suis vierge? Voilà, elle part pas le nord, en fait. Et à la fin, de pouvoir dire, je suis la servante du Seigneur. Hein. Elle avait capté, hein, toutes les options, en fait, tout ce qui va se passer, bien sûr. Elle sera la mère du Messie, mais voilà, à quel prix aussi. Et voilà, je suis prête. Donc une confiance, mais pas bien au-delà de son âge, de 15 ans. Allez, on va pour 15 ans. Téméraire, hein, purée. Intelligente. Vous imaginez l'intelligence de cette jeune femme, d'une sagesse bien au-delà de ses années. Voilà, cette Marie. Waouh! Elle est inspirante. Hier, il y a Francine qui nous a un peu fait une remarque et je vais le dire aujourd'hui, maintenant, à ce moment-là. Ce n'est pas mon idée, c'est Francine qui a pensé, dit, c'est vrai, on a envie aussi, nous, les femmes plus âgées, de dire aux plus jeunes femmes, vous nous inspirez, vous êtes courageuses, vous êtes téméraires, vous êtes confiante, vous êtes sage, vous êtes intelligent, vous êtes magnifique, vous nous inspirez. Hein? On veut vous le dire aussi, nous, les plus âgés, hein? De dire merci, merci pour vos vies inspirantes. Marie l'était en tout cas. Et je continue ma lecture. Peu après, donc on ne sait pas, est-ce que Marie est allée vers sa maman? Qu'est-ce qu'elle a fait avec ces nouvelles? Est-ce qu'elle est allée tout de suite voir Joseph ou c'était après, est allée voir Élisabeth? Mais à quel moment? On ne sait pas, hein? Voilà. Peu après, Marie partit pour se rendre en hâte dans une ville de montagne du territoire de Judée. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Donc Élisabeth, on lit un peu plus tôt, hein? Élisabeth mariée à un prêtre, Zacharie, descendant d'Aaron, donc waouh, une grande lignée, hein, le grand sacrificateur, ou comment on dit, le prêtre Aaron, juste aux yeux de Dieu, observant tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de manière irréprochable. Vous aimeriez bien, sur votre pierre tombale, qu'on note ça. Moi, oui. Waouh. Voilà Élisabeth. Mais il se peut, hein, comme on voit là sur cette peinture, qu'Élisabeth soit déjà bien âgée. Hein, comme disait l'ange Gabriel, peut-être elle avait 50, mais peut-être 55, peut-être 60, peut-être même 65 ans, va savoir. Donc 45 ans ou peut-être même 50 ans séparent ces deux femmes. Et pourtant, avec cette belle nouvelle, elle ne peut pas se contenir. Elle court à travers les paysages israéliens pour arriver chez sa parente préférée, Élisabeth. Et là, au moment où celle-ci a entendu la salutation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. Elle fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie, plus que toutes les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir. » Wow! Elle capte vite la situation, Élisabeth. Hein? Vous imaginez comment ça allait vite dans sa tête pour que tout de suite elle sorte une phrase pareille. Wow! Des femmes incroyables. Car vois-tu, au moment même où j'ai entendu me saluer, mon enfant a bondi de joie au-dedans de moi. Tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. Waouh! C'est une histoire incroyable. Des femmes, wow! Des femmes, des grandes femmes. On devrait plus souvent parler de ces femmes-là, non? En tout cas, moi, j'étais toute heureuse de les redécouvrir. Oui. Alors, la question qu'on va vous poser, c'est qui sont les Élisabeth dans ta vie, dans vos vies? Qui sont ces femmes vers qui Ouh, quand vous avez une bonne nouvelle, vous laissez tomber tout, vous sortez mon attel et trrr, tout de suite un WhatsApp à qui? Est-ce que vous avez une Élisabeth dans votre vie? Est-ce que vous êtes allé la chercher ou c'est elle qui est venue vous trouver? En tout cas, je peux vous dire, je suis très, très reconnaissante pour les Élisabeth que j'ai eues dans ma vie. Je vais les nommer parce qu'elles m'ont beaucoup donné. Beaucoup de femmes dans mon enfance, j'étais toujours fourrée dans leur cuisine à chercher la féminité. Adji, Panzi. Louis, Vern, celles en Suisse romande qui m'ont accueilli les bras grands ouverts. Rita Piguet, ta sœur.
Rita Piguet, vous la connaissez?
Oui. Suzy Meyer, Yvonne Ritchie. Je veux les honorer parce qu'elles m'ont beaucoup apporté. Elles ont été les mères spirituelles pour moi. Alors certaines sont venues me chercher. En fait, ce qui m'a touchée, c'est chez femmes, c'est quand je débarquais chez elles. Elles ont tout laissé tomber et elles m'écoutaient. Elles m'écoutaient. Alors, dans la Bible, on disait « vieilles femmes, enseignez les plus jeunes hein? ». Et je peux vous dire, c'est les femmes qui m'ont écoutée. Et j'étais tellement bouleversée par leur générosité qu'à mon tour, j'avais envie de les écouter m'enseigner. Mais c'est venu après. Hein?
Ah oui.
Voilà. Et voilà, la question maintenant, j'ai envie de vous poser… C'est as-tu encore ou peut-être avais-tu? Parce que des fois, quand on avance en l'âge, voilà, ces femmes s'en vont ou prennent des autres rôles, mais as-tu, et là, ça va être cette slide-là, as-tu ou avais-tu une Élisabeth dans ta vie? L'as-tu cherchée ou s'est-elle présentée à toi? Quel héritage l'a-t-elle laissé pour toi? Quelques minutes. Il y a les Élisabeth, les mères spirituelles, hein, ces femmes plus âgées qui nous encouragent ou qui donnent de leur temps, de leur sagesse. Et puis, il y a les Maries. Hein. Hier, j'ai dit les Maries, alors tout le monde disait « quelle Marie ?» Les Maries. Elles ne doivent pas forcément avoir été visitées par l'ange Gabriel pour que vous les s'intéressez à elles, mais... J'aimerais bien nous encourager toutes d'ouvrir grand nos yeux et de dire qui pourrait être cette Marie. Peut-être vous le savez déjà, peut-être tu sais déjà. Qui est la Marie dans ta vie? Pour qui tu donnes du temps, de la disponibilité?
L'écoute.
Mmh. Tu réalises tous ces défis, tu vois. À quel point elle est courageuse, à quel point elle est intelligente, à quel point tu l'admires, à quel point tu veux la soutenir dans tes prières, tu veux lui donner une place dans ton cœur et dans ta vie. Alors voilà, peu importe l'âge que vous avez, hein, il y a toujours quelqu'un de plus jeune à qui on peut commencer à laisser la place dans nos vies. Et je vous encourage maintenant vraiment, laissez Dieu carrément vous inspirer. Parce que pour savoir quelle est cette Marie-là, bien sûr, il faut que ça aille dans les deux sens. Hein. Des fois, on aime bien une plus jeune femme, on est touché par ce qu'elle dégage, mais peut-être ce n'est pas réciproque ou peut-être pas encore. Ou... Il faut avoir la sagesse. Il faut que Dieu nous inspire, n'est-ce pas? Alors, des fois, on peut donner sans recevoir en retour. Hein. Des fois, c'est un peu triste parce qu'il dit « je donne ». Je veux, voilà, et je ne vois pas que cette Marie, elle réagit. Ou peut-être, voilà. Mais je nous encourage à juste être à l'écoute. Seigneur, qui est une plus jeune femme dans mon entourage avec lequel je sens quelque chose, je sens une invitation de ta part et j'ai envie vraiment de lui laisser une place dans ma vie pour l'écouter, elle. Hein? Je vous avais dit, hein? Ce qui m'avait le plus touchée avec ces mères spirituelles que j'ai eues, c'est des femmes qui ont juste posé des bonnes questions. Comment vas-tu vraiment? Raconte. Quels sont tes défis? Juste poser des questions, des bonnes questions. Et laisser cette mari raconter, en fait, cette plus jeune femme, juste raconter. Avoir quelqu'un dans lequel elle peut faire confiance, donc qui va prier pour elle, qui va l'encourager, qui va... Voilà, c'est ça. Donc, cette deuxième question, je demande à vous. Et cette fois-ci, vous n'allez pas discuter forcément. Je vais demander à Francine peut-être de venir. Francine a préparé des cartes qu'elle va mettre sur chaque table. Et sur ces cartes, vous allez prendre une carte, écrire à, aux premières places peut-être une maman à qui vous voulez dire des belles choses. Merci, honorer une maman. Même si elle est décédée, va savoir, vous pouvez encore peut-être lui écrire une carte, des choses qui étaient importantes, que vous ne lui avez jamais dites, mais qui sont gros sur votre cœur, vous devez lui dire, va savoir. En fait, libre à vous, avec ces cartes qui vont apparaître, choisissez une carte et peut-être vous dites non, non. J'ai plutôt envie d'écrire cette carte à la maison, on ne prendra pas le temps maintenant, mais à une Élisabeth dans ma vie, ou j'ai envie de l'écrire à une Marie dans ma vie, que j'ai envie d'encourager ou juste dire à quel point elle m'inspire, à quel point je l'admire, à quel point je me rends compte qu'elle est courageuse. Voilà. Alors voilà, un petit moment maintenant, les cartes vont passer. Pour la dernière demi-heure qui nous reste, en tout cas une partie de cette demi-heure, j'ai envie de vous parler du processus de la guérison intérieure. Pour celles d'entre vous qui sont sur Instagram, allez voir sous mon nom. Chaque fois, je suis habillée en pull rayé rouge et blanc. Charlie, j'aime bien dire, quand je suis habillée en Charlie, je parle de guérison intérieure. Va les voir, j'ai quelques clips, pas énormément, mais c'est quelque chose que j'ai envie de continuer. Parce que c'est vrai, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Ma maman est venue à mes 22 ans pour dire « est-ce que j'étais une bonne maman ?» À 30 ans, elle était d'accord d'entendre les choses que j'avais à dire, et on est en route, et on est encore en chemin. Ça prend du temps de vraiment à ce que la confiance se rétablisse. Voilà, ça prend du temps, et on est en route. Voilà. Mais la petite fille qui avait un jour, cinq semaines, six mois, une année, deux, trois, quatre, cinq, six, cette petite fille qui avait été si seule, en fait, elle est là, en fait, en moi. Et on dit, on a l'âge de nos blessures. Vous avez entendu cette phrase déjà, on a l'âge de nos blessures. Si entre 0 et 5, j'ai eu des coups sur coups de choses traumatiques, il y a une petite gamine de 5 ans en moi qui est orpheline, en fait, ou bien qui est là, qui a besoin de soins. Et j'aimerais peut-être le dire maintenant, parce qu'après, on va partir avec toute la partie spirituelle, mais j'aimerais aussi dire que de chercher de l'aide est très important aussi. C'est vrai, on va faire tout maintenant un processus avec Dieu, et vous allez voir à quel point dans mon histoire, Dieu est vraiment venu à mon secours. Mais j'aimerais quand même dire, pour certaines situations vraiment graves, l'abus sexuel par exemple, ou des grands traumas, il est important d'aller chercher de l'aide auprès des professionnels. En plus, en parallèle, l'un n'exclut pas l'autre, mais disons-le. Quand j'avais 40 ans, quand j'ai réalisé que j'avais été, j'aime bien aujourd'hui dire survivant d'abus sexuels, pendant 2 ans et demi, j'étais 3 fois par semaine sur le divan, comme dans les séries. C'est ça le coup, quelque part, qu'il faut. C'est l'engagement, c'est ce qu'il faut pour... Et aujourd'hui, je peux vraiment dire que cette partie-là, cette grande blessure-là, voilà, ça c'est bon. Voilà. Mais pour juste dire, et la relation d'aide, suivant la situation, voilà, la relation d'aide chrétienne, il y a des belles, belles choses qui sont à notre disposition. Et j'aimerais aussi dire ici, ce n'est pas uniquement des chrétiens. Mon docteur Stollet, j'aimerais bien le citer ici, ce n'est pas un chrétien. En tout cas, je ne sais pas, il ne m'a jamais avoué ça. Mais Dieu sait, je suis reconnaissant pour cet homme qui a été là toutes ces années-là pour qu'aujourd'hui je puisse dire waouh, je sens vraiment maintenant, je sens quelque chose sous mes pieds. Voilà. Alors ça, c'est juste ça c'est dit. Mais, voilà, pour moi un passage incroyable qui m'a maintenant talonné pendant des années, voilà, je l'ai même tatoué sur mon bras. Ésaïe 66, versets 1 à 3, et j'aimerais le lire parce que ce passage est une bombe. Bombe, c'est trop... c'est pas un bon mot. Une ressource, mais d'une richesse au point où notre Seigneur Jésus l'a, il a dû la lire dans ce rouleau à Nazareth. Et je le lis. « L'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, dit Jésus, n'est-ce pas? Car l'Éternel m'a oint. Et pourquoi il est venu? Il est venu pour mourir à la croix pour nos péchés, bien sûr, nous sauver. Voilà. Mais il est aussi venu pour annoncer aux malheureux une bonne nouvelle. Il m'a envoyé afin de panser tous ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel, la jubilée, hein? Un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui, dans Sion, sont endeuillés, la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile d'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. » Vous imaginez de ressembler à un grand chêne plutôt que malheureux, cœur brisé, captive, prisonnier, en deuil, cendre sur ma tête. Vous imaginez, esprit abattu, vous imaginez la bonne nouvelle que notre Seigneur Jésus est venu nous annoncer. Waouh! Nous pouvons, comme ces chaînes, être un lieu de ressources et de vie pour les milliers d'espèces. Hein. Il y a eu même un film l'année passée sur le chêne. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Toute une année sur juste un chêne. Voilà ce qu'il promet. Il promet, il est venu nous apporter consolation, guérison, libération. Et concrètement, alors comment ça se passait? Maintenant, je vous donne comment ça s'est passé chez moi. Alors, j'ai dû passer par plusieurs étapes. Bien que j'ai grandi dans une famille chrétienne avec vraiment, franchement, mamie et daddy, ce que vous m'avez donné, c'est vous étiez véridicte, vous étiez... j'ai cru quand vous avez dit vous aimez Dieu et que vraiment vous avez été des exemples d'une christianisme saine, vraiment. Ça j'ai reçu de vous et je vous remercie pour ça. Mais j'ai quand même dû apprendre à connaître le vrai Dieu, bien que je sois depuis 8 ans. Et moi, pour la petite histoire, je suis tellement anxieuse comme ça. Alors je me suis convertie, mais des cinquantaines de fois, parce que c'est toujours de dire, j'ai sûrement loupé une étape, attends, je recommence, alors, je suis pécheresse, oui, 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 alors, Jésus est mort à la croix pour mes péchés, oui, 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 alors, et je le reprenais, et je recommençais, tellement j'étais angoissée à mes 8 ans, 8, 9, 10, hein, j'ai eu peur du fameux verset, quand le Saint-Esprit, voilà, tu vas en enfer, hein.
Le péché contre le Saint-Esprit.
Le péché contre le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça a pu me donner des mois entiers d'angoisse. Donc voilà, j'ai dû apprendre que Dieu, le vrai Dieu, est vraiment un Dieu dans lequel je peux mettre toute ma confiance. Parce que, c'est vrai, j'ai eu un papa très très occupé, donc pour moi, dans ma tête, Dieu, il était très très occupé. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il avait de guerre à régler, de famine, et tellement de 8 milliards d'autres personnes, vous imaginez? Mais il n'a pas le temps pour moi. J'ai projeté hein, comme ça sur Dieu des choses que je croyais de mon papa. Mais non, 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 non. Dieu, il a qu'une seule chose à faire, c'est de s'occuper de moi. Et il fait ça pour 8 milliards d'autres personnes en même temps. Parce que quoi? Il est Dieu. Il arrive à faire ça. Moi, il fallait vraiment que je capte ça. Et que je croie que Dieu, il n'est pas dangereux. Parce que suivant le papa que vous avez eu, et ce n'était pas mon cas, hein, mais suivant, ici, chère femme, si vous avez eu un papa menaçant ou dangereux, il faut un sacré chemin pour arriver à faire confiance à Dieu. Donc il y a tout ça, n'est-ce pas, tout ce chemin pour vraiment être confiante, de lâcher prise dans les mains de Dieu. Et vous voyez, aujourd'hui on parle beaucoup du syndrome post-traumatique en fait. Quand les gens ont traversé des traumas, en fait, le contrôle... Alors, moi, je ne sais pas pour vous, c'est pas si ça, je vous donne cette impression, mais beaucoup de gens croient que je suis vraie cool, très décontractée, très cool. Je suis une grande contrôleuse, grande contrôleuse. Parce que ça fait partie des symptômes des post-traumatiques, c'est que j'ai réalisé très tôt que ben voilà, les parents étaient loin devant, il va bien falloir que quelqu'un s'occupe de moi. Et c'est moi qui va le faire, parce que je ne vois personne dans les parages. Alors, ma petite, tu vas t'occuper de toi. Et voilà, je suis devenue très autonome et très... Ben, voilà. Hein? C'est pour ça aussi que tu ne captais pas le cues, on dit en anglais. Tu ne captais pas mes signaux, parce que très petite, j'ai compris, ma petite, il va bien falloir que tu te débrouilles. Voilà. Et voilà, maintenant, comment faire confiance? Oh, purée. Et je suis encore en train d'apprendre hein, à lâcher le contrôle. À faire confiance. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, déjà confiance que Dieu est vraiment bienveillant, que je peux vraiment me lâcher dans ses mains, qu'il ne va pas être un Dieu malveillant et voilà, et que je peux lâcher prise. Donc ça, c'est une première étape. Et après, une étape, Dieu, quand j'étais toute petite et ces choses difficiles, je les vivais. Toi, t'étais où? J'ose poser cette question à Dieu parce que le psalmiste David l'a posée. Il a dit, mais, et je le vois hein, dans les psaumes, il hurle, mais tu dors ou bien? Tu es où? Et on peut aller hurler, vous savez, la colère, toutes ces émotions-là, souvent on aime bien la joie, hein. La joie ça va, mais tous les autres, mais la colère. Hein, des fois, ça gronde au fond de nous. On a le droit d'aller, alors des fois, hein, c'est sorti souvent sur mes enfants, hein, et mon mari aussi, on en prenait plein dans ma colère. Cette colère qui était là au fond de moi, ils étaient pour rien, ils y étaient pour rien. Et c'est parti ou sur les animaux aussi domestiques, ou voilà, ouais. Mais Dieu, lui, il veut qu'on vienne vers lui avec notre colère. Il dit, viens, je suis honorée. Si tu viens gueuler vers moi, et souvent dans la voiture, je ne sais pas pour vous, mais la voiture, c'est génial la voiture. Parce que je peux hurler, et je dis, et c'est tout dernièrement que cette question, tout d'un coup, je n'avais pas pensé à la poser. Et vous savez, de poser, mais j'ai pensé à la poser pour l'abus et tout, mais pas pour la plus grande douleur dans ma vie, c'est que ma maman me manque beaucoup. Et en fait, de dire, mais toi, t'es où? Quand je pleure toute la nuit, je sais que, voilà, hein, il faut la laisser pleurer parce que, voilà, il ne faut pas la gâter. Et je sais que personne ne viendra. Toi, Dieu, tu étais où? Et j'avais l'impression dans ma petite voiture, le 23 septembre, je ne sais plus, 23 ou 25, que Dieu m'a dit, enfin, Liliane, on y est. Enfin. Parce que ta plus grande tristesse, c'est que ta maman t'a beaucoup manqué. Donc, ta plus grande question, tu ne me poserais jamais, c'est ça. Tu étais où? Et Liliane, je prendrai tout mon temps pour te répondre, parce que c'est très, très important, cette question. Et il a commencé, hein? Emma, moi, mon journal intime, voilà, voilà, je le crible de réponses, parce qu'il répond. Et la réponse qu'il me donne à moi, je ne vous le partage pas. Pourquoi? Parce que c'est à vous d'aller à Dieu, crier votre question. Parce qu'il veut se révéler à vous pour votre tristesse. Il est honoré quand on vient vers lui hurler notre incompréhension. Voilà. Dieu, où es-tu? Aussi notre Seigneur Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? N'est-ce pas? Donc on peut vraiment oser. Et je crois qu'il est honoré quand on amène notre colère ou notre incompréhension vers lui. Une troisième étape qui était pour moi vraiment utile, c'est de réaliser... Et ça, c'est une image pour moi, mais peut-être elle ne fonctionne pas pour vous, mais je vous l'explique. C'est comme en moi, dans mon âme, il y a une sorte de piscine de larmes que je n'ai pas versée. Parce que je devais aller dans ma chambre, serrer les dents, être forte, être dure. Donc en fait, chaque larme qu'on n'a pas versée, ou qu'on a versée toute seule, sans un autre être humain empathique pour l'entendre, Bah, elle est là, et ses larmes sont là, c'est une grande bassine de larmes non pleurées. Et il est important qu'on les pleure, ces larmes. Comment on peut les pleurer? Alors, on peut les pleurer avec Dieu, mais on peut simplement la pleurer, par exemple, avec une copine. D'aller vers une copine, toc, toc, toc. Tu seras d'accord juste de m'écouter, de te raconter un épisode très, très triste de ma vie. Je vais juste la raconter, et s'il te plaît, tu ne dis rien. Rien du tout. Tu dois juste m'entendre, juste au bout, et juste me dire, je suis désolée. Je suis désolée. C'est tout. C'est tout, hein? Juste ça. Quelqu'un qui écoute. Et quand on peut pleurer dans la présence d'une autre personne empathique, c'est grandement bénissant et guérissant. Là, la vidite, la piscine, la bassine se vide d'un bon coup. Vraiment. Donc, j'ai une amie avec laquelle j'ai marché tout à l'heure, elle m'a dit « je suis consolée ». Je ne sais pas pour vous, mais des fois, je rencontre des personnes et je dis « cette personne est inconsolable ». Inconsolée. Pas inconsolable, excuse-moi, ça c'est une erreur. Elle n'est pas inconsolable, elle est inconsolée. On le sent comme ça. Quand on sent une personne à gros, gros sur le cœur et qu'elle n'a pas encore eu la capacité ou la possibilité de juste verser. Alors, je les verse dans la présence de Dieu, je la verse chez mon psychiatre, et des fois, il dit, Madame Favarger, vous pouvez venir pleurer 50 minutes, la séance est réussie. Vraiment. Alors, tu m'as eu dit, hein, c'est cher payé pour... pas besoin de faire 10 ans d'études pour ça. C'est pas vrai.
Pas jugé.
Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai de dire 10 ans d'études pour ça. Parce que, alors lui, il pose des bonnes questions. Aux copines, je vous conseille, juste écouter. Juste écouter. Juste dire, et peut-être au mari dans vos vies, juste de dire, raconte-moi cet épisode et je te promets, je ne dirai rien. Et je vais juste te dire, rien ou juste la phrase, je suis désolée. Désolée. Et pleurer avec, comme on sait si bien le faire, nous les femmes, n'est-ce pas? On est si bonnes pour ça. Juste de pleurer avec ceux qui pleurent. Voilà. Alors ça, et des fois avec moi-même, ces temps, j'ai pris un duvet, je l'ai mis sous mon bureau, et des fois je me roule en boule sous mon duvet, et je pleure. Voilà. Et ça, et il ne faut pas croire que je passe ma journée à pleurer, hein? Parce que pour celles qui me connaissent un peu, je mène une vie de personne mature. Je suis debout dans...
On te croit.
Alors, je vais vous dire, depuis que j'ai commencé à laisser cette petite orpheline en moi pleurer, je suis beaucoup plus mature, beaucoup plus apte à être une femme de... Elle n'a pas l'air très sûre, pas trop vaincue.
Écoute, toi tu le dis, c'est vrai alors. Mais non. Je vois quand même une différence. Oui, oui.
Joker, hein, Joker. Mon mari me dit que oui. Alors, ça c'est une bonne référence, parce que c'est lui qui vit avec moi au quotidien. Et voilà. Donc voilà ces trois étapes-là, qui ont vraiment été, et pour vous, il y aurait d'autres, peut-être vous pouvez me raconter plein d'autres étapes qui aident pour cette guérison émotionnelle intérieure. Mais voilà, tout commence dans ce Ésaïe 61, de permettre à ce Dieu, à qui on commence vraiment à mieux connaître, le vrai Dieu, hein, pas les faux dieux que je me suis un peu construit, de pouvoir aller vers lui avec toutes mes émotions, parce qu'il veut les accueillir, de vider cette piscine de larmes, et il y a ce verset magnifique hein, qui dit « L'Esprit Saint hein, cueille nos larmes dans un fiole et les garde précieusement, comme dans la cabane, hein, le livre ou le chemin du pardon, il y a un film qui ça... Ouais, ouais. Voilà. Et Dieu honore ces larmes que nous pleurons, et là, il commence à voir vraiment du pied, voilà. C'est comme si avant, il y avait une sorte de d'abysse sans fond. Et maintenant, tout d'un coup, voilà, ça se remplit, ça se colmate, et il y a pied, il y a sol sous mes pieds. Je ne sais pas si toi, mamie, tu as envie de réagir à ça, ouais. Ou bien, ouais.
Tout ce que je peux dire, J'ai vu un changement de Liliane, c'est vrai. Chaque fois quand on s'est vu, tu avais l'air plus posée, plus assurée, plus rayonnante. Alors j'étais toujours très contente. Merci Seigneur, ce que tu fais en elle. Voilà, ça continue.
Ça continue.
Il y a des hauts et des bas. C'est pas chaque jour en montant, n'est-ce pas? Mais il faut permettre aussi ces temps où il y a peut-être un peu de famine.
Hein? Oui, c'est ça.
Voilà,
c'est ça.
Exactement.
Et jusqu'au bout, hein, je dirais que c'est jamais trop tard pour commencer, n'est-ce pas? De permettre à Dieu la guérison pour nos orphelines ou l'orpheline en moi. En psychologie, on parle de l'enfant intérieur. Franchement, vous savez quoi? Ça fait 100 ans qu'on a la psychologie moderne. Ça fait que confirmer, en fait, les grandes vérités de la Bible. Hein? La psychologie moderne n'invente rien. Et je suis très, très touchée par la jeune génération. Dans leur série, ils ont énormément de psychologie, finalement, des bonnes choses. Alors, j'entends hein, les gens de mon génération et puis ils disent « Ouais, c'est tout parti dans l'autre côté. Alors, nous, on n'écoutait pas et maintenant, elles écoutent trop les leurs. » Ben, j'en sais rien. J'en sais rien. Attendons pour voir. Voilà. Moi, je suis très, très touchée quand je vois maintenant une jeune génération qui est très à l'écoute de leurs enfants. On va voir qui a raison, qui a tort. Le temps nous dira. Mais nous allons terminer avec ces passages de Dieu, un père de mère. Parce que pour une raison qui est juste dans sa grande sagesse, notre Dieu a décidé de se présenter comme père. N'est-ce pas? C'est un père. Voilà. Des fois, je l'ai dit, pourquoi ce n'était pas la mère? Le père. Mais, il y a tellement de nombreux passages qui parlent de père au cœur de mère. Et là, nous allons lire hein, Ésaïe 66, 13. Oui, comme une mère qui console son enfant, moi aussi, je vous consolerai. Psaume 27, 10. Si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi, Seigneur, tu me recueillerais. Et j'aime beaucoup aussi ce passage en Ésaïe 49. Est-ce qu'une mère peut oublier l'enfant qu'elle allaite? Et même si ça pourrait arriver, moi, jamais je t'oublierai. Je t'ai gravé sur mes mains. Et j'aime penser que chacune de nous est... Tu existes. Et franchement, ce que je vais dire maintenant, je le dis à la boulangère des fois quand j'ai un petit moment. Ça, c'est ce que j'ai un peu... C'est la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est « Tu existes parce que tu es une pensée d'amour de Dieu de toute éternité. » Tes parents ont eu une bonne idée d'avoir des enfants, oui, mais tu existes bien avant que tes parents aient eu envie de t'avoir, ou pas, hein? Accident peut-être. Tu existes parce que tu es une pensée de Dieu. Un beau jour, Dieu a dit « Il faut qu'Anna existe. » Il le faut. Je rêve son existence. Et si c'est possible de dire les choses ainsi, ce n'est pas très théologiquement correct, mais il s'est impatienté tous ces siècles jusqu'à ce qu'Anna naisse. Et le jour qu'elle est née, celui qui faisait la plus grande fête, c'était Dieu.
C'était lui.
Parce qu'il dit, enfin notre histoire commence, enfin j'attendais ce jour. Et voilà que votre histoire d'amour a commencé. Alors peut-être, il y a peut-être des passages où tu voyais pas, tu savais pas qu'il était là, mais lui c'est le contraire. Et il faut, je nous encourage, ça j'ai oublié de dire dans ça, et c'est important, dans les périodes, les épisodes traumatiques qu'on a vécu, qu'on puisse demander à Dieu, où étais-tu, et qu'il nous montre où il était. Il veut nous montrer où il était. J'ai reçu l'image de pendant l'abus sexuel, où il était lui. Et je sais, et je ne vais pas vous la raconter parce que c'est à vous d'aller pour vous-même, pour votre trauma. Vous voyez? Sa réponse à moi, c'était pour moi, taillé sur mesure. Donc voilà. Maintenant, on sait, est-ce que je suis orpheline? Non, parce qu'il est en train de changer ma vision de toutes ces étapes traumatiques pour dire jamais tu étais orpheline, ma chérie. Peut-être orpheline des parents qui n'avaient pas d'autres outils dans leurs mains, mais pas de moi. Jamais, 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 tu étais mon orpheline. Jamais. Il n'y a pas une nanoseconde de ta vie où j'étais absente. pas une. Et toute ma vie, je te talonnerai, et ça, tu le dis à la boulangère, toute votre vie, il vous talonne, il vous cherche. C'est lui qui vous cherche. Vous pouvez chercher Dieu, oui ou non, mais une chose est sûre, il vous cherche. Elle me dit, ah bon? Ah ben ça alors. Essayez, vous allez voir. C'est vraiment beau. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est un Dieu, et maintenant on a des magnifiques chants de louange hein, qui dit, ce Dieu qui traverse les montagnes, et il n'y a aucune vallée, aucune montagne qui résiste à combien il nous cherche. Et c'est un Dieu qui nous cherche, hein, comme celui qui a laissé les 99. Mais nous sommes le brebis perdu. Tu dis, c'est qui les 99 qu'il a laissé? Non, 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 non. Nous sommes le brebis perdu et il vient nous chercher. Et même moi, est-ce que, bon, je suis sauvée, j'ai le billet, le ticket pour le ciel, ok. Mais j'y suis perdue dans beaucoup de domaines de ma vie encore. Donc jusqu'au bout, on est en route de se laisser trouver par Dieu. Voilà. Et voilà. Ça, c'est ce que j'avais envie encore de vous rajouter. Donc, ce père au cœur de mère. Et juste pour les dernières 4 minutes, on a envie juste que vous vous tournez vers la personne à côté de vous parce que vous avez entendu beaucoup, beaucoup de choses et vous posez la question. Dites à la personne à côté de vous ou notez-le dans votre cahier, comme ça vous vous rappelez. Un point. Hein, dans 35 ans, on a demandé de quel sujet ma mère a parlé, il y a, parce que c'était la première oratrice ou des premières oratrices, de quel sujet elle a parlé. Si vous devez vous rappeler d'un point aujourd'hui qui était vraiment, qui est rentré dans votre cœur, où Dieu vous a touché votre cœur, ça sera quoi? Un point. Hein? Allez, dites-le, partagez-le ou écrivez-le dans les 4 minutes qui restent, s'il vous plaît.
Nous avons commencé avec cet arc-en-ciel, magnifique. Cette couleur extraordinaire. Et je vous ai demandé, est-ce que vous êtes une peintresse, peintre. Moi, j'aime beaucoup peindre. Alors, les couleurs. Aïe. Et notre Dieu est un Dieu de couleurs. Il est fantastique. Il n'est pas noir et blanc. N'est-ce pas? Il a toutes ses facettes. Et pendant cette journée, on a touché à bien des facettes, ce qu'il est. Et je trouve, comme Liliana a vraiment terminé maintenant, Dieu nous cherche. Il est à nos talons. N'est-ce pas? Il est là, pas pour menacer, pas pour dire moi que ça fait, pas du tout. Pour nous embrasser, pour t'accueillir, pour te dire bienvenue chez moi. Alors ça, c'est cet arc-en-ciel, Alpha, Oméga. Quand vous voyez la prochaine fois un arc-en-ciel comme ça, réfléchissez, vous souvenez de ça, la bonté, la diversité, la beauté de notre Dieu. Et avec ça, on vous souhaite une bonne après-midi encore. On a terminé.